Europejskie.
Rozumienie da Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Le 9 mai est traditionnellement le jour de la fête de l'Europe où l'on célèbre la déclaration Schuman du 9 mai 1950 qui marque le début de la construction européenne. Mais ce dimanche 9 mai 2021 est plus ambitieux. C'est en effet aujourd'hui que l'Europe se lance dans la démocratie directe avec la mise en place officielle et solennelle de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Un projet ambitieux puisqu'il s'agit ni plus ni moins de reconnecter au projet européen des citoyens abusés. Le pari imaginé par Emmanuel Macron d'une régénération de l'Europe par une concertation des Européens est loin d'être gagné. Symboliquement, le lancement de cette conférence se déroule à Strasbourg, au Parlement européen. Concrètement, les citoyens vont pouvoir s'exprimer via des rencontres, mais aussi à travers une plateforme numérique pan-européenne qui traduira instantanément les contributions des uns et des autres dans les 24 langues parlées dans l'Union. Quelle Europe demain? Quelle Europe voulons-nous pour nos enfants? Le débat est lancé et les réponses sont espérées au premier semestre 2022. En attendant, je vous propose de partager quelques pistes de réflexion avec nos invités. Je vous les présente. Bonjour Thierry Chopin.
Bonjour.
Vous êtes politologue et professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Lille et directeur adjoint du centre Espol Lab. En deux mots, ce centre Espol Lab?
C'est simplement le laboratoire de recherche de l'école.
Européenne et ou pas seulement?
Oui, c'est un centre de recherche européen, effectivement, puisque la grande majorité d'ailleurs des enseignants-chercheurs viennent d'autres pays européens que la France.
Ulrike Guéraud, bonjour. Guten Abend.
Guten Abend.
Vous êtes la directrice du département de politique européenne à l'université du Danube à Krems, c'est en Autriche, et puis la fondatrice de European Democracy Lab, ça c'est à Berlin, et vous êtes en ligne de Berlin dans le studio RFI de Berlin. Deux mots sur European Democracy Lab.
C'est un petit think tank que j'ai créé en 2014 pour redéfinir en fait la démocratie européenne.
Bon, on aura évidemment beaucoup de choses à dire sur le sujet, c'est un peu le cœur de l'émission. Sandro Gozzi, buongiorno, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé Renaissance Renew, vous êtes secrétaire général du Parti démocrate européen, alors ça c'est tout nouveau, hein?
Oui, c'était cette semaine, la semaine qui vient de se terminer, j'ai eu cet honneur d'avoir été proposé par François Bayrou et élu par les conseils du Parti démocrate européen, pour prendre les relais de Marielle Desarnetz, et comme vous savez, nous a quittés en janvier. Et c'est un moment très important, selon moi, pour les partis politiques européens, dont nous avons beaucoup de travail devant nous.
Alors, le Parti démocrate européen, c'est le parti qui fédère tous les partis de sensibilité démocratique en Europe, hein, on va dire de centre-droit, on peut dire ça?
Je dirais plutôt des centres, et c'est un des deux piliers des Renew Europe, les groupes politiques dont je fais partie. Renew Europe, c'est l'alliance des deux partis, les partis des libéraux-démocrates, l'ALDE, et les partis démocrates européens, donc des démocrates européens, des centristes européens. Et voilà, depuis cette semaine, je suis devenu le secrétaire général d'un des deux piliers de Renew Europe.
Et vous avez été, dans une vie antérieure, ministre italien des Affaires européennes. Lucas Maciek, bonjour. Je ne sais pas comment on dit bonjour en tchèque. Soudain, j'ai une hésitation. Comment dit-on bonjour?
Dobriden, bonjour.
Tout simplement. Vous êtes le directeur du campus de Sciences Po à Dijon et chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Un petit mot sur ce campus de Sciences Po à Dijon.
C'est un campus du Collège universitaire de Sciences Po qui accueille des étudiants en première et en deuxième année de cursus Sciences Po, qui sont des étudiants qui s'intéressent aux questions européennes et dont une bonne partie viennent d'Europe centrale orientale.
Et puis Marie Caillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente des Jeunes Européens. Alors, qui sont ces Jeunes Européens en quelques mots?
Alors, les Jeunes Européens, c'est une association qui croit en une Europe plus intégrée et proche de ses citoyens. On pense que c'est à notre génération de proposer une vision nouvelle de la construction européenne. Et donc, on est à la fois vecteur d'information, d'alerte du public, mais aussi un endroit unique pour échanger les idées et débattre entre jeunes qui croient en l'Europe.
Eh bien voilà, c'est dit. Et puis, comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction du Courrier International ce dimanche avec Sacha Michel. Alors Thierry Chopin, nous sommes le dimanche 9 mai 2021. Il nous faut un peu rappeler ce qui s'est passé le 9 mai 1950.
Oui, effectivement, le 9 mai 1950 est une date très importante pour la construction européenne, puisque ce jour-là, Robert Schuman, qui était alors ministre français des Affaires étrangères, fait une déclaration politique très importante dans les salons de l'horloge du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, et propose aux partenaires ouest-allemands de la France, proposition qui va ensuite s'élargir aux six fondateurs, que sont donc la France, l'Italie, les pays du Benelux et l'Allemagne de l'Ouest, de créer en fait une communauté européenne du charbon et de l'acier afin de viser un objectif politique qui est celui de la pacification et de la réconciliation. Et donc, on fait remonter au 9 mai 1950 le point de départ, l'acte de naissance, si l'on peut dire, de la construction européenne.
Alors, il fallait avoir une vision à long terme, parce qu'on est 5 ans après la fin du cataclysme de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, avec le charbon et l'acier, on fait des canons et des tanks. Donc, ce qui a symbolisé, enfin, voilà, cette Deuxième Guerre mondiale. Donc, il fallait une vue tout à fait visionnaire hein, pour se lancer dans un projet comme celui-ci, 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Absolument, ça a supposé à la fois une vision stratégique très, très forte, très claire sur le long terme. Ça a supposé aussi beaucoup de courage politique de faire une telle proposition si peu de temps après la fin du suicide collectif qu'ont subi les Européens pendant la première moitié du XXe siècle. Et effectivement, ça témoigne en fait d'une capacité de leadership politique qu'on espère pouvoir retrouver aujourd'hui.
Alors, on est passé de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, à la CE, et puis enfin à l'Union européenne, avec ce fameux triptyque « L'Europe, c'est la paix, c'est l'état de droit et la prospérité » dans le cadre d'un État-providence. Alors, ça a longtemps été le récit de l'Europe, hein, qui ne fonctionne plus tout à fait aujourd'hui. La paix, elle est devenue une évidence, en tout cas pour les jeunes générations, peut-être à tort, mais en tout cas, elle est devenue une évidence. L'Union européenne a traversé de multiples crises qui ont remis en cause cette prospérité, par exemple la crise financière, la crise de l'euro, ou qui ont perturbé son essence même, comme par exemple la crise des migrants, sans oublier bien sûr la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Tout ça, Thierry Chopin, conduit quand même à une perte de confiance relative, mais tout de même réelle, des citoyens dans l'Europe. Voilà, l'Europe, on ne sait plus trop où elle est, on a un peu de mal à imaginer où elle peut aller.
Ça, alors effectivement, après les deux grands récits politiques que vous venez de mentionner, celui sur la paix, la réconciliation d'un côté, puis celui sur la prospérité et la solidarité de l'autre, qui a été porté notamment par quelqu'un comme Jacques Delors dans le milieu des années 80, il semble effectivement que ces deux récits semblent avoir épuisé en fait leurs effets et qu'on est en quête d'un nouveau récit politique susceptible de redonner du sens et en fait une légitimité à cette construction européenne qui en a besoin sans doute pour prospérer. Or, effectivement, cette décennie de polycrise, toutes ces crises, tous ces chocs de souveraineté, pour les appeler comme ça, que vous venez de mentionner, Daniel, je crois conduisent à un nouveau récit politique possible, un nouveau narratif, comme on le dit souvent en mauvais français. Et je crois que ce nouveau récit, en fait, il touche essentiellement à la capacité de l'Union européenne à faire face à des défis qui sont aujourd'hui de nature régalienne. Qui touche aux questions relatives à la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, qui touche aux questions relatives à la fiscalité, qui touche à la question de la défense des intérêts commerciaux des Européens. Les questions budgétaires également sont très importantes, on le voit dans la crise sanitaire actuelle, les questions de santé, les questions de souveraineté technologique, on pourrait multiplier les exemples. Et je crois que c'est le sens notamment du discours qui a été porté en France hein, depuis 2017 par le président de la République dans le discours de la Sorbonne, hein, ce discours sur l'Europe souveraine, sur l'Europe régalienne, sur la nécessité de partager en fait en commun davantage des compétences qui touchent à la souveraineté de l'État.
On va y venir, c'est un peu le thème de l'émission. Sandro Gozzi, donc à partir du constat qu'on vient de faire avec Thierry Chopin, il y a eu l'idée donc d'un brainstorming continental hein, que l'on appelle la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est comme l'a dit Thierry Chopin, une idée d'Emmanuel Macron qu'il a évoqué dès 2017 au lendemain de son élection dans ce fameux discours de la Sorbonne, relancé en 2019 par une lettre aux Européens. Alors, Sandro Gozzi, avant d'imaginer ce qui pourrait en sortir, un petit mot sur le mode d'emploi. Est-ce que tout le monde va pouvoir participer à cette réflexion sur l'Europe de demain? Et est-ce que, en quelques mots, ça va se passer comment?
Oui, tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer parce que depuis le 19 avril, on a mis à disposition de tous les citoyens européens qui le souhaitent une plateforme numérique dans laquelle on peut s'inscrire, on peut présenter ses idées, ses contributions, poser ses questions, organiser même des événements sur la plateforme, des associations, des ONG, des groupes de citoyens peuvent aller sur la plateforme, peuvent organiser des débats pour le futur de l'Europe et tout cela est évidemment ça va contribuer au travail de cette conférence. Donc c'est un moyen de participation directe, je dirais démocratique directe et permanente qui est en place. Et puis il y aura des citoyens qui seront sélectionnés, qui feront partie aussi de la conférence. Il y aura des groupes de travail, des panels, comme on les appelle, des citoyens, de 250-300 citoyens par thème, qui vont travailler au moins pour un an. Et il y aura aussi des moments de plénière dans lesquels les citoyens, donc participation directe des citoyens, vont discuter avec les représentants des citoyens, à savoir les parlementaires nationaux européens, les représentants des États, les ministres et les institutions européennes, la Commission, etc. Donc il y aura aussi des moments de discussion en plénière. Évidemment, chacun pourra s'exprimer dans sa langue et pourra intervenir et présenter ses idées par écrit dans sa langue, parce que la plateforme est parfaitement multilangue, comme il se doit, dans une Europe qui veut faire les choses autrement, de façon plus démocratique et participative.
Alors évidemment, sur la page de l'émission, il y a un lien avec cette plateforme pan-européenne pour la conférence sur l'avenir de l'Europe. Marie Caillot, j'imagine que cette conférence sur l'avenir de l'Europe va mobiliser les jeunes Européens.
Oui, bien sûr, on va se mobiliser fortement, parce que c'est vrai que c'est une occasion assez unique, je crois, de pouvoir porter des idées. Et autant dire que la jeunesse n'en manque pas d'idées sur l'Europe, finalement.
Alors, vous allez participer comment, par exemple?
Alors, nous, notre objectif, c'est à la fois de pouvoir animer ce débat en proposant des moments de pédagogie auprès de jeunes pour qu'ils puissent se saisir de cette plateforme, parce qu'il faut se dire quand même que nous, on la connaît, mais il y a beaucoup de jeunes en milieu rural ou avec moins d'opportunités qui ne connaissent pas forcément cette opportunité de s'exprimer. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir aller vers ces jeunes-là pour leur dire que ça existe et leur donner une chance de s'exprimer. Mais on va aussi porter des idées, notamment pour une Europe plus démocratique et durable. Donc il va y avoir ces deux volets d'action pour les jeunes européens au niveau de la conférence sur l'avenir de l'Europe.
Alors les conclusions attendues de cette grande conférence qui devrait mobiliser les citoyens des 27 pays de l'Union européenne, elle est attendue au premier semestre 2022. Ce sera pendant la présidence tournante de l'Union européenne. D'un mot, Thierry Jepin, c'est pas par hasard que ça se termine au premier semestre 2022, un moment où la France aura la présidence tournante de l'Union européenne et où en tout cas jusqu'en mai, Emmanuel Macron sera président encore, dans tous les cas de figure.
Oui, alors je ne sais pas si c'est un hasard ou si ce n'est pas un hasard, mais en
ça
tout cas...
Ça m'étonnerait que ce soit un hasard.
De fait, les conclusions effectivement de cette conférence sur l'avenir de l'Europe sont attendues pendant ce semestre de présidence par la France du Conseil de l'Union européenne, dans un contexte par ailleurs effectivement doublement particulier, puisque cette présidence interviendra aussi pendant la campagne pour l'élection présidentielle.
Donc il risque d'être, cette campagne présidentielle, évidemment, sur le thème de l'Europe, pas seulement, mais en tout cas, ce sera forcément très européenne, comme en 2017. Ulrike Guéraud, j'ai envie de vous poser une première question. Alors, vous êtes à Berlin, Lukas Matček est d'origine tchèque, Sandro Gozzi italien, Marie Caillot est européenne tout court, et Thierry Chopin est français. Je veux dire, qu'est-ce que les Européens ont en commun? Si je vous pose cette question, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit, Ulrike Guéraud?
Ben, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est justement la définition de ce que c'est la citoyenneté européenne. Déjà, c'est une grande question académique. Moi, je suis politiste, donc il y a tout des travaux sur justement qu'est-ce que c'est la citoyenneté européenne. Pour en commencer, ça me semble être au cœur justement de cette conférence. Déjà, nous sommes invités de nous exprimer en tant que citoyens et citoyennes européens dans cette conférence de l'avenir de l'Europe. On a tous, ça a été mentionné, il y a cette plateforme qui est ouverte, donc tout le monde peut s'y exprimer sur 1500 signes, voilà. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça dit quand on dit on est citoyens européens? C'est-à-dire, il y a quand même le grand livre de Pierre Rosanvallon, sociologue français, qui a écrit le livre 1994, Le sacre du citoyen. Et le sacre du citoyen, de la citoyenneté, c'est en fait de partager le droit de vote, les questions sociales et la taxation. Bon, on ne les partage pas parce que mes propres fils habitent à Paris, ils ont un autre système de taxation, donc français que moi, je suis allemande, je travaille en Autriche, donc on est tous en fait sur ce que Rosanvallon appelle le sacre du citoyen, on n'est pas citoyens européens. Ce qu'on partage en tant que citoyens européens, c'est on partage par exemple les mêmes roaming fees, on partage le même droit de consommateur, de protection consommatrice, on partage le droit d'aller dans un consulat d'un autre pays européen quand on est en dehors de l'Union européenne. Donc, on partage un certain nombre des droits, mais pas le sacre du citoyen. Et donc, pour moi, ce qui est essentiel pour cette conférence, parce que déjà, par exemple, Macron, quand elle a fait la lettre ouverte avant les élections parlementaires 1919, il avait adressé cette lettre « Citoyens, citoyennes européennes ». Voilà, donc il y a un président français qui s'adresse dans une lettre ouverte aux citoyens européens. Donc, pour moi, c'est stratégique, central et clé d'apporter une définition vraiment très concrète. Qu'est-ce que ça veut dire la citoyenneté européenne? Et pour pousser plus loin, dernière phrase, mais il y a maintenant un cas à la Cour européenne qui veut exactement que la Cour européenne se prononce sur oui ou non, est-ce que la citoyenneté est un droit permanent? Parce que le traité de Maastricht, c'est un traité de deux piliers. Il y a l'Union des États, c'est dans le système dans lequel nous vivons, l'État européen et tout, mais aussi union des citoyens européens. Et donc l'argument de la plainte, qui est maintenant une plainte à la Cour européenne, c'est de dire, bien que la Grande-Bretagne quitte et a déjà quitté, selon l'article 50, l'Union européenne, ça ne veut pas dire que les Britanniques ont perdu leur statut de citoyenneté européenne parce qu'ils la disposent de droits directs. Toute cette question, moi, ça m'intéresse fondamentalement parce que uniquement si on est réellement citoyens européens, ça fait du sens de nous exprimer en tant que citoyens européens dans une conférence sur l'avenir de l'Europe.
Lucas Maciek, vous n'êtes pas le porte-parole des gouvernements d'Europe centrale et orientale, mais vous avez tout de même une sensibilité centre-européenne. Est-ce que vous avez l'impression que de Lisbonne à Prague et d'Helsinki jusqu'à Athènes, les Européens ont des ambitions communes ou pas assez?
Alors, je me permettrai de remonter un peu en amont de tout cela et je affirmerai aussi que nous avons une culture commune. Je pense que bien si nous avons tous une perception très nationale de nos cultures et nous valorisons tous nos cultures nationales, ces cultures nationales sont des déclinaisons d'un fond commun et c'est un mélange d'interpénétration, d'influences croisées extrêmement riches et c'est ça aussi qui fait les Européens. Et je pense qu'on peut effectivement documenter ça de Portugal à la Finlande et de l'Irlande à la Grèce. Pour ce qui est de la situation actuelle, je crois que ce qui fait aussi notre unité, même si elle est parfois difficile à percevoir de l'intérieur, c'est que les Européens ont trouvé, me semble-t-il, un équilibre très spécifique, très particulier, de modèle politique, économique et social, entre un compromis entre des valeurs ou un mélange, un mix, un équilibre particulier de conciliation des valeurs telles que la liberté, mais aussi l'égalité, la solidarité, etc., qui singularise les Européens à l'échelle mondiale. à la fois par rapport à des grandes puissances émergentes, mais aussi par rapport aux partenaires de l'autre côté de l'Atlantique. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'effectivement nous perdons de vue en regardant les choses de l'intérieur de l'Europe. Mais dès que nous sortons notre nez de l'horizon européen et dès que nous regardons aussi la façon dont le monde nous regarde, je crois que cette spécificité européenne, effectivement, fait pâlir toute cette diversité, tous ces décalages, toutes ces spécificités nationales, qu'elle soit sur la ligne Est-Ouest ou sur la ligne Nord-Sud au sein de l'Europe.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, le 9 mai, c'est la fête de l'Europe, mais c'est aussi le jour du lancement de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Nous sommes avec Thierry Chopin, politologue et professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Lille, avec Ulrike Guéraud, directrice du département de politique européenne à l'Université du Danube à Krems, en Autriche, avec Sandro Gozzi, eurodéputé Renaissance Renew et tout jeune secrétaire général du Parti démocrate européen, avec Lucas Matchek, que l'on vient d'entendre, directeur du campus de Sciences Po à Dijon, et avec Marie Caillot, présidente des Jeunes Européens. Alors, cette conférence sur l'avenir de l'Europe, Thierry Chopin, c'est un peu regarder les faiblesses européennes et voir ce que l'on peut faire pour améliorer la situation. On va peut-être partir d'un cas de figure, on est en plein dedans, c'est la crise sanitaire. La crise sanitaire a montré à la fois la pertinence de l'échelle européenne dans une Europe intégrée où nous dépendons tous les uns des autres. Eh bien, les frontières, on voit bien qu'elles devraient se régler au niveau européen. Et puis la vaccination, et donc par exemple l'achat des vaccins, eh bien, elle ne peut là encore se dérouler qu'au niveau européen, sinon on est dans le chacun pour soi, les Allemands achètent pour les Allemands, les Roumains ont un peu plus de mal parce qu'ils ont un peu moins d'argent, et on est dans un cafouillis général où l'idée même de l'Union européenne, c'est-à-dire une idée de solidarité, s'effrite très rapidement. Mais on a bien vu en même temps, Thierry Chopin, que ça n'a pas exactement fonctionné comme on aurait pu imaginer que ça puisse fonctionner. Il y a eu pour le moins des lacunes dans la gestion de cette crise sanitaire européenne, mais en même temps, la santé, ce n'est pas une compétence européenne. Alors, on est un peu là à la convergence des plus et des moins de l'Europe et puis des améliorations qu'on peut imaginer dans un avenir plus ou moins proche.
Oui, alors c'est une question évidemment très large et très complexe. Et je pense qu'il faut remonter d'ailleurs en deçà de la seule crise sanitaire que nous vivons. Personnellement, le constat que je ferai des 10 années qui viennent de s'écouler, de ces 10 années finalement de crise qu'on évoquait tout à l'heure, de ces différents chocs qu'on a subis, c'est qu'effectivement, on peut sans doute faire un diagnostic ambivalent de la manière dont l'Union européenne est capable de répondre en fait aux chocs qui surviennent. C'est que je pense que d'un côté, les institutions prennent des décisions parfois rapidement, dans le cadre des compétences qui sont les leurs. Je prends un exemple, la Banque Centrale Européenne. À la fois, il y a 10 ans, pendant la crise de la zone euro, et aujourd'hui, en tout cas depuis un an, face à la crise sanitaire.
Il y a 10 ans, elle était très, très attentiste. Hein. Elle a suivi le mouvement, elle a eu du mal à prendre conscience de la situation. Et puis récemment, là,
évidemment, elle a été très efficace.
Très efficace très et efficace. Très, très dynamique.
D'un autre côté, le Conseil européen, on voit bien, fonctionne d'une manière tout à fait différente. Il y a 27 chefs d'État et de gouvernement. Les enjeux qui sont sur la table sont des enjeux de souveraineté pour beaucoup d'entre eux. Et donc, il y a une lenteur de la négociation diplomatique pour parvenir à une décision. Ça crée beaucoup d'incertitudes. Quand une décision est prise, on met beaucoup de temps à la mettre en œuvre. Alors, prenons l'exemple actuel en fait, du plan de relance. C'est un élément, une décision de rupture incroyable que d'avoir décidé d'emprunter en commun pour financer cette relance. Et pour autant, ce plan de relance, il n'est toujours pas mis en œuvre. Donc là, je crois qu'il y a un enjeu de gouvernance, de management de crise, si je puis dire, qui doit être réglé presque indépendamment des questions de substance, de fonds et de politique publique.
Sandro Gozzi, on voit bien que dans la crise, et il y en a eu de nombreuses, l'Europe a tendance un peu à improviser et donc elle perd en efficacité, d'autant plus que l'Europe, ses prises de décision, c'est évidemment toujours un peu compliqué, comme l'a rappelé Thierry Chopin, 27 pays, on n'est pas forcément tous d'accord, il y a des histoires, des intérêts qui peuvent être différents, donc c'est toujours un peu difficile. Pour rendre l'Europe plus efficace, car c'est en même temps ce qu'attendent les citoyens européens, est-ce qu'il faut améliorer la situation, est-ce qu'il faut réviser les traités qui sont vraiment la règle de conduite de l'Europe, ou est-ce qu'on peut encore, selon vous, améliorer le fonctionnement de l'Europe sans modifier les traités?
Tout d'abord, il faut dire que l'Europe, quand elle montre d'avoir courage et volonté politique, peut se donner des instruments extraordinaires et sans précédent. Et l'aspect positif de la réaction européenne à la crise, c'est que du point de vue économique et financier, on a fait exactement le contraire de ce qu'on avait fait au début de la crise financière. Quand on a vu la crise sanitaire arriver, on a changé les contextes. On ne s'est pas limité à agir dans les contextes donnés, on l'a changé et on a créé un programme extraordinaire, les plans de relance européennes, 750 milliards, avec dette commune européenne, obligations communes, des véritables obligations européennes avec lesquelles on va sur les marchés et on va trouver la liquidité nécessaire pour financer les plans avec de nouvelles ressources qui devront être données à l'Union européenne en taxant les géants de la finance ou du numérique. Pour vous dire que quand il y a volonté politique et courage politique, que je répète, il n'y a pas eu pendant la crise financière, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes acteurs. Et il n'y avait pas, notamment, selon moi, un certain Emmanuel Macron, l'Europe peut déjà aujourd'hui donner des réponses extraordinaires. Ceci dit, il y a des problèmes de fonctionnement. Et les problèmes de fonctionnement ont produit jusqu'à récemment les risques de paralyser complètement l'Union européenne. Tout ça doit changer. Est-ce que ça peut changer sans réviser les traités? Tout d'abord, il faut voir quels seront les résultats de la conférence, quelles seront les questions que les citoyens, sur lesquelles les citoyens voudront insister. Si les citoyens nous disent qu'il faut faire de la justice dans le domaine de la fiscalité, il faut que tout le monde paie les impôts de manière juste, donc il faut taxer, par exemple, il faut éviter la concurrence fiscale déloyale à l'intérieur de l'espace européen, bah, ça, pour cela, il faut passer de l'unanimité à la majorité qualifiée. Ça, c'est une question qui demande la révision des traités. Les problèmes fondamentaux, c'est les conseils européens.
Alors, le Conseil européen, on rappelle le Sandro Gozzi.
Les chefs d'État et de gouvernement, quand ceux qui nous écoutent voient ces photos avec ces 27 chefs d'État et de gouvernement souriant, maintenant, ils ne les voient plus parce qu'il y a le Covid, mais avant,
ils les voient masqués.
Ils les verront encore. Dans l'attente, ils verront des photos des chefs d'État et de gouvernement qui se rencontrent. Les conseils européens devraient donner, ce qui est juste, des orientations politiques fondamentales à l'intérieur desquelles les élus au Parlement, les représentants du gouvernement au Conseil des ministres, la Commission devraient travailler. Finalement, le Conseil européen est en train d'aspirer tous les systèmes. Tout s'est fait par consensus. Ça veut dire qu'il y a un seul pays peut mettre les veto et peut bloquer, paralyser tous les fonctionnements, toute l'action de l'Union européenne. Donc d'un côté, évidemment, il faut exploiter tout ce que les traités nous offrent pour décider de plus en plus à la majorité, mais à un certain moment, sur certaines questions, pour une politique étrangère plus efficace, pour une véritable politique de la fiscalité, pour une véritable politique de la sécurité, il faudra décider de passer de l'unanimité à la majorité. Ceci requiert une révision des traités. Si les citoyens nous demandent des choses qu'on peut faire avec de nouvelles politiques, faisons de nouvelles politiques. Si les citoyens nous demandent des choses sur lesquelles on doit présenter de nouvelles lois, présentons de nouvelles lois. Mais si les citoyens nous demandent des choses pour lesquelles il faut réviser les traités, pas de tabou, on ne doit pas avoir tabou, et on doit entamer une révision des traités. Et j'ai vu que même Angela Merkel, même la dame, que lors du traité de Lisbonne, avait eu le courage de dire, avec ces traités pour traité de Lisbonne 2010, avec ces traités pour 50 ans, on ne va plus parler des révisions des traités, c'est ça qu'elle avait dit Angela Merkel à Berlin, bah, toujours à Berlin, devant le Bundestag, il y a quelques mois, et Madame Merkel, justement, a dit, bah, à la lumière de la crise sanitaire et pour sortir de la crise, peut-être qu'on devra aussi envisager une révision des traités. C'est une bonne évolution, j'espère que celle qui va succéder à Angela Merkel et va imiter l'Angela Merkel des derniers mois et pas l'Angela Merkel Wolfschäuble de la crise financière.
Bon, on va demander à Ulrike Guéraud ce qu'elle en pense. Alors, évidemment, Sandro Gozzi, Ulrike Guéraud, vient de le développer. Parmi les règles qui bloquent le fonctionnement de l'Union européenne, il y a évidemment cette règle de l'unanimité dans certains domaines, hein, pas tous, mais dans, par exemple, celui de la fiscalité, ce qui veut dire que les Européens pratiquent le dumping fiscal au détriment des autres. C'est par exemple le cas de l'Irlande, de la Hongrie, des Pays-Bas, mais ils ne sont pas les seuls. Or, la concurrence fiscale mine la confiance des Européens dans l'Europe parce qu'elle assèche les ressources de l'État-providence. Alors, Ulrike Guéraud, je vous pose la question tout bêtement. Est-ce qu'on peut imaginer un système démocratique avec la règle de l'unanimité et celle du veto? Est-ce que c'est acceptable?
pour revenir, je ne veux pas trop rentrer dans les détails de la fiscalité, l'unanimité et tout ça, pour être honnête, ça c'est les questions qu'on brasse depuis 30 ans et on n'a pas trouvé de réponse, hein, parce qu'effectivement il y a toujours soit l'Autriche, soit Luxembourg, soit l'Irlande qui va voter contre la taxation, voilà. Mais le problème plus fondamental, pour ne pas rester dans les sujets politiques en détail, c'est qui décide en Union européenne. Est-ce que c'est les États ou est-ce que c'est les citoyens? Donc pour moi, l'espoir, je reviens à la notion et à la définition même de la citoyenneté européenne. Parce que ce qu'on est en train de faire au moment où on est en train de consulter les citoyens, c'est-à-dire on leur donne en fait la souveraineté. C'est quand même peu imaginable que les citoyens sont consultés, on arrive à un grand rapport, ceci, cela, et puis après le Conseil dit, ça ne nous intéresse pas. Donc on est en pleine crise de représentation en Europe, on a vu justement une décade de crise qui était catastrophique pour les jeunes, avec un Conseil européen qui, très souvent, ne veut pas ce que les citoyens européens veulent. Il y a beaucoup de sondages qui disent qu'en fait, les citoyens européens, pour dire que des petites choses, veulent une basic income européenne. Ils veulent une assurance chômage européenne. Ils veulent beaucoup de choses. Tout ça, le Conseil ne veut pas, mais les citoyens veulent. Donc la réelle question, c'est de définir qui décide en Union européenne. Si on veut une démocratie européenne, c'est très simple. Après tout, c'est toujours les citoyens qui sont les souverains. Donc plus qu'on donne le pouvoir aux citoyens, mieux c'est. Et après, on ne se tapera plus justement les formats protocolaires des Sherpas, le Conseil derrière les coulisses et tout ça qu'on a vu depuis je ne sais pas quoi. Mais on sait que depuis 20 ans, au moins, ça ne fonctionne plus.
Le Krasmatchek, il y a déjà une douzaine de pays et de gouvernements du nord au sud du continent qui ont déjà fait savoir qu'ils souhaitaient s'en tenir au statu quo institutionnel. Il y a des pays qui ne veulent pas que ça change et ce sont souvent les pays d'Europe centrale et orientale. Est-ce que aujourd'hui, il faut un peu faire évoluer les pays d'Europe centrale et orientale qui ont une vision, je dirais, un peu consommatrice de l'Union européenne? Ils apprécient particulièrement les subventions et les aides directes, mais pour ce qui est de la Hongrie, pour ce qui est de la Pologne et d'autres pays encore, on a l'impression que ces pays d'Europe centrale et orientale ne jouent pas le jeu de l'Europe.
Alors, je crois que déjà, il faut introduire beaucoup de nuances parce que je crois qu'il y a vraiment des grosses différences au sein de ce groupe que vous qualifiez d'Europe centrale et orientale. Entre les pays baltes, c'est pas la même chose que la Hongrie. Entre la Roumanie, c'est pas la même chose que la Pologne.
Donc, bien sûr, il y a une tendance.
D'ailleurs, lorsqu'on regarde, par exemple, les sondages d'Eurobaromètre pour parler de ce qu'est l'attitude des citoyens, on voit que rarement ces pays apparaissent comme un bloc. En général, ils se répartissent tout au long de l'échelle entre les positions les plus extrêmes et souvent, ils tournent autour de la moyenne de l'Union européenne. Ceci dit, effectivement, je pense qu'il y a une différence. Il y a une différence aussi liée à la culture politique et au passé plus ou moins récent de ces pays. Je pense effectivement que c'est des pays qui ont adhéré à l'Union européenne. Bon, récemment, ça commence à dater un tout petit peu. Néanmoins, ils sont encore un peu dans la phase d'appropriation des institutions européennes. Au niveau de leurs citoyens, le degré de la connaissance du fonctionnement de l'Union européenne, des institutions européennes reste encore souvent assez faible ou assez imprécis. Et donc, on peut aussi comprendre que les finesses de débat sur l'évolution de la compétence de telle ou telle institution européenne passent un tout petit peu à la trappe du débat public de ces pays-là. Et puis, il y a un autre point aussi, je pense que c'est des pays qui, du fait de leur passé, y compris du fait de leur évolution institutionnelle, constitutionnelle, sont des pays qui favorisent peut-être une forme de pragmatisme et qui se méfient des grandes réformes qui, en grande pompe, sur papier, font évoluer des choses, alors que la réalité n'avance pas trop. Et personnellement, moi, de ce point de vue-là, je reste très centre-européen. Je pense qu'avant de changer les traités, il faut déjà utiliser, disons, 110% le potentiel des traités actuels, et moi je reste persuadé que le potentiel démocratisant, potentiel démocratique, potentiel de renforcement de la citoyenneté européenne du traité de Lisbonne est très loin d'être exploité. Et donc moi personnellement, je pense que déjà essayons de vraiment se servir à 100 voire 110% des traités actuels avant de se lancer dans un débat qui, enfin, dans une bataille sur un terrain miné, qui est la question de réouverture des traités, avec le côté imprévisible des ratifications dans tel ou tel État. Et la France est un très bon exemple. Voilà, on sait très bien qu'un référendum sur l'Europe en France, ça peut être une bombe pour l'Union européenne.
Oui, c'est souvent la réponse est non, mais quelle est la question ? Marie Caillot, vous n'avez pas trop entendu. Parmi le mode de scrutin du Parlement européen que vient d'évoquer Lukasz Maciek, bien, il y a eu l'espoir à un moment qu'il puisse y avoir des listes transnationales pour les élections européennes. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est, par exemple, quelque chose que les jeunes Européens vont réclamer ?
C'est une des choses qui nous intéresserait fortement. Enfin, je crois que l'enjeu général est celui d'avoir une pratique politique européenne plus affirmée. Je crois que l'objectif, c'est de ne pas se mettre de barrage tout de suite et de se dire « laissons la parole aux Européens ». On verra bien ce qu'ils vont dire et on verra bien ce qu'ils vont demander. Peut-être que ce ne sera pas nécessaire, effectivement, une réforme des traités. Peut-être que ce sera, mais laissons l'opportunité sans tout de suite nous mettre des possibilités fermées dès le départ sur le format. Et faisons de cette conférence aussi quelque chose qui ne relève pas de l'engagement purement symbolique, mais d'une vraie volonté politique. Et je crois que dans cette vraie volonté politique, il y aura quand même beaucoup de choses qui transparaîtront sur deux enjeux qui me paraissent en tout cas fondamentaux aujourd'hui. La question de la démocratie et tous les questionnements que ça implique, que ce soit sur aussi la place du Parlement européen dans cette Union européenne. Donc ça, ce sera le premier enjeu. Et le second, c'est cette question de la crise climatique. Parce qu'effectivement, là, on est beaucoup le nez dans la crise sanitaire, qui est la crise immédiate, mais celle de la crise climatique qu'on rencontre et qu'on va rencontrer dans les prochaines années, ça va être nécessaire aussi de se projeter avec une Union européenne très forte sur ces questions-là pour pouvoir avancer et avoir un futur plus serein de l'Union européenne.
Vous écoutez Carrefour de l'Europe sur RFI. Nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Parler de l'avenir de l'Europe, c'est aussi se poser la question qui est susceptible d'en prendre la tête. Et le quotidien espagnol El País n'a pas le moindre doute quant à celui qui pourra incarner cette Europe en voie de refondation.
Oui, la prochaine personne à prendre la tête de l'Union Européenne, c'est l'expression employée par El País, elle s'appelle Emmanuel Macron. Une fois le départ de la chancelière allemande acté cet automne, le locataire de l'Elysée sera le dirigeant d'un grand pays européen le plus expérimenté. Surtout, le Français a une vision pour l'Europe, assure El País. Il veut faire du continent une puissance. Il parle d'autonomie stratégique, de défense commune, de souveraineté européenne et on s'en souvient, au début de son quinquennat, il avait également proposé l'idée d'une plus grande intégration économique auprès d'Angela Merkel, à l'époque sans succès. Finalement, c'est la pandémie qui a brisé le tabou allemand. L'an dernier, la création d'un plan de relance de 750 milliards d'euros, alimentés par une dette commune, a été approuvé par la chancelière. Mais paradoxalement, pour le président français, cette avancée coïncide avec les difficultés de la France dans la gestion de la pandémie et avec le sentiment que cette crise accélère la perte d'influence de la France face à l'Allemagne. À cela s'ajoutent les difficultés de Macron sur la scène intérieure, un malaise social et des erreurs qui pourraient peser dans l'optique de son éventuelle réélection en 2022. En somme, comment être le président de l'Europe si la légitimité de Macron en France est remise en cause, s'interroge El País. Dans tous les cas, même en cas de nouveau mandat, Macron n'aura pas les coudées franches, loin de là, assure le quotidien madrilène. L'un des motifs de friction entre le président français et le successeur de Merkel pourrait être le rôle de l'UE en tant que puissance moyenne. Macron parle d'autonomie stratégique, mais c'est un concept qui suscite la méfiance parmi les plus atlantistes à Berlin, car ils craignent que Paris ne veuille utiliser l'UE comme un tremplin pour projeter la puissance militaire française. D'autres États européens pourraient aussi se sentir menacés par une France trop consciente de sa centralité et un président trop conscient de sa valeur, analyse El País. Et puis, il y a le facteur Mario Draghi. L'ancien chef de la Banque Centrale Européenne, devenu président du Conseil italien, est le dirigeant qui a façonné l'UE actuelle. Et même s'il lui manque l'expérience gouvernementale qui est celle du français, conclut El País, il pourrait lui faire de l'ombre comme dirigeant pro-européen quand Merkel aura cédé sa place.
Merci. Merci Sacha Mitchell, courrier international d'Hebdo et courrierinternational.com, le site. Alors Sandro Gozzi, il y a quand même l'émergence en Italie de Mario Draghi. Alors il débute dans la vie politique, c'est évidemment un grand banquier, il a été à la tête de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Il débute dans la vie politique européenne, italienne, et c'est pas forcément toujours facile, mais il est susceptible de lui aussi de devenir un grand européen aux côtés d'Emmanuel Macron, et puis évidemment le successeur d'Angela Merkel.
Je suis convaincu que 2021, c'est l'année d'une coopération sans précédent entre Italie et France grâce à la relation politique et personnelle entre Emmanuel Macron et Mario Draghi. Ils s'estiment beaucoup réciproquement. Ils ont une relation directe qui fonctionne très bien. On l'a déjà vu dans ces premiers mois d'expérience de Draghi en tant que chef du gouvernement, qu'il s'agisse de la discussion sur l'avenir du budget européen, qu'il s'agisse de commencer à se faire plus entendre par les grandes sociétés pharmaceutiques. On a vu une grande entente entre Mario Draghi et Emmanuel Macron. Cette année, on va signer les traités qu'on appelle les traités du Quirinal. J'étais dans l'équipe qui avait lancé cette idée avec Gentiloni et Emmanuel Macron avec Nathalie Loiseau au sommet franco-italien de 2017 de Lyon. Finalement, ce traité va devenir une réalité. Ça va créer une relation étroite, spéciale, notamment pour des actions conjointes des politiques européennes entre Italie et France. Et donc, je crois que c'est là aussi, ça va aller dans la même direction. Ils ont la même approche à l'idée des souverainetés européennes, qui est la seule capacité, possibilité pour nous de reprendre les contrôles. Ils n'ont aucun tabou à la révision des traités, et j'insiste là-dessus. Il ne s'agit pas, mais qu'est-ce que c'est cette histoire que la révision des traités, c'est un truc, une grande pompe, des grands projets? Si on n'avait jamais fait les traités de Rome, l'Europe n'existait pas. Si on n'avait jamais fait les traités de Maastricht, le Parlement européen n'aurait pas de pouvoir législatif réel. Si on n'avait pas fait les traités de Maastricht, on n'aurait pas une monnaie unique. Donc, qu'est-ce que c'est cette idée selon laquelle la révision des traités, ça fait partie de la vie, de la physiologie de l'Union européenne. Et si les citoyens nous diront qu'ils veulent des actions de l'Europe européenne et qui requièrent une révision des traités, il faudra réviser les traités. Laissons libres les citoyens de s'exprimer et laissons ouvert l'issue de ces processus. Et si l'issue demande une révision des traités, faisons-la. Par ailleurs, déjà aujourd'hui, et là, Mario Draghi et Emmanuel Macron sont aussi d'accord, on voit toutes les faiblesses du traité de Lisbonne. Le fait que les nouvelles ressources de l'Union européenne pour financer les plans de relance doivent être ratifiées par 27 parlements nationaux, que ça veut dire plus de 50 chambres. Est-ce que ça vous semble quelque chose d'efficace? Est-ce que ça vous semble quelque chose qui puisse fonctionner avec les défis auxquels on doit faire face dans le XXIe siècle? Donc, arrêtons cette dichotomie qui n'en est pas une entre ceux qui veulent la révision des traités ou pas. La révision des traités, c'est pas un fin en soi, c'est un instrument dont on peut avoir la nécessité, et si la nécessité se présente, il faut l'utiliser.
Tiens, Chopin, finalement, dans l'idéal, pour que à l'avenir l'Europe fonctionne mieux, il faudrait qu'elle soit un peu plus démocratique, qu'elle soit plus efficace, donc un peu moins bureaucratique. C'est un peu aussi ça, en quelques mots, l'avenir de l'Europe, si on veut que ça fonctionne mieux.
Je partage, en fait, à l'issue de la discussion, le point sur lequel on semble converger, c'est-à-dire il y a une crise de la représentation en fait en Europe. Ça veut dire quoi au niveau de l'Union européenne? Ça veut dire, je suis d'accord avec la dichotomie en fait qu'a utilisée Sandro Gozzi tout à l'heure. Il faut sortir de l'opposition en fait entre technocratie et populisme. Et on voit bien finalement que la représentation au niveau de l'Union européenne, elle est placée dans une sorte de triangle des Bermudes. C'est-à-dire qu'il y a trois points. Il y a la technocratie, une forme de technocratie dépolitisée d'un côté, le national-populisme de l'autre, et puis finalement la négociation diplomatique au Conseil européen. Tout laisse penser en fait qu'il n'y a pas de véritable niveau de représentation politique. Donc toutes les propositions qui peuvent favoriser le développement d'un tel niveau de représentation politique, et là les pistes évoquées par Lukasz Matzek tout à l'heure me semblent aller réellement dans la bonne direction, c'est-à-dire conforter le système de Spitzenkandidaten pour élire, choisir le président ou la présidente de la Commission européenne, revoir les modalités électorales pour l'élection du Parlement européen avec l'introduction d'une dose de liste transnationale, réfléchir aux modalités de définition d'un véritable mandat politique européen sur la base duquel les gouvernements européens peuvent agir et prendre des décisions. Tout ça est de nature à renforcer la légitimité démocratique du système. Et ce renforcement de la légitimité démocratique du système politique de l'Union européenne est une condition sine qua non pour renforcer en fait l'efficacité de l'action des gouvernants.
Ulrich Higuero, je m'adresse non pas à la politiste, mais à la fondatrice de European Democracy Lab. Pour que cette conférence sur l'avenir de l'Europe fonctionne, il faut que les citoyens s'en emparent. Est-ce que vous avez l'impression que on en prend le chemin?
Bon, on est en train de la démarrer, cette conférence. Donc, on peut observer, la conférence était planifiée depuis un an. Elle aurait dû commencer déjà l'année dernière, au mois de mai, mais avec la pandémie, c'était pas possible. Donc, la bulle européenne, si je peux dire ainsi, c'est-à-dire ceux qui sont toujours dans les circuits européens, ça fonctionne depuis un an. Il y a énormément de choses dans l'Internet. Si on voit, il y a toutes fondations, que ce soit les fondations allemandes, européennes et tout, Mercator, Bertelsmann et tout. Tout le monde a un rapport, Institut Jacques Delors, tout le monde est en train d'écrire. En fait, on est déjà noyé un peu dans les papiers pour cette conférence. Il y a bien des problèmes méthodiques. Qui est consulté? Est-ce que les soi-disant populistes sont aussi consultés ou est-ce que ceux qui sont de nature progressiste européenne sont consultés? Donc, il y a beaucoup de questions méthodologiques. Il y a aussi évidemment des peurs ou des craintes, au moins, c'est-à-dire des craintes que la conférence pourrait être hijacked par justement ceux qui sont contre l'Europe et qui veulent, parce que c'est une plateforme ouverte, il faut quand même la gérer, la modérer et tout. Donc, il y a plein de questions. Mais après tout, je suis plutôt confident que là maintenant, on est vraiment en train de démarrer quelque chose de grand. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans, on a déjà fait en gros le même exercice. On a aussi fait les dialogues européens en 2008 déjà. Donc, ce n'est pas la première fois, mais peut-être avec l'Internet, avec le blockchain, avec les techniques modernes, on est un peu plus avancé et peut-être à l'écoute des Nesentrailles. Et donc, la troisième fois, on va arriver à quelque chose.
On verra. Merci, Ulrich Higuero. Un peu la même question, Lucas Matschesk. Est-ce que vous avez l'impression que les citoyens d'Europe centrale et orientale vont s'emparer de cette possibilité de donner son point de vue et de faire évoluer l'Europe ou pas?
Alors là encore, si on se base sur le sondage qui était fait par Eurobaromètre sur ce sujet, on dirait que les centres européens se distinguent pas trop de la moyenne européenne, avec quelques exceptions notables. On voit effectivement que, par exemple, mes compatriotes tchèques sont notoirement plus sceptiques sur de nombreux aspects de l'Union européenne que d'autres. Mais si on regarde les autres pays, la Pologne ou la Hongrie, par exemple, c'est assez intéressant de voir que la population hongroise dans les sondages est quand même très très loin des positions du gouvernement hongrois, et il faut juste se demander si ce divorce sur l'Europe finira par provoquer un changement politique en Hongrie aussi. Mais je pense que l'enjeu est un peu le même en Europe centrale orientale qu'ailleurs, c'est-à-dire sortir des cercles d'initiés, si je puis dire, des gens qui s'intéressent aux questions européennes, des gens qui militent pour ou contre l'Europe, et toucher cette grande majorité des citoyens qui ont une idée assez floue, assez vague de ce qu'est l'Union européenne et qui peine à être convaincu. En Europe centrale et orientale, il faudra sans doute lutter contre un double scepticisme. Je pense qu'il y a un scepticisme qui remonte encore au passé communiste de ces pays où il y a une grande méfiance pour des grandes opérations qui peuvent être perçues comme plus des moyens finalement de mobilisation un peu à but propagandistique plutôt qu'une véritable consultation. Et donc je pense qu'il y a effectivement cette espèce de complexe un peu en Europe centrale et orientale d'être mal aimé, mal compris, mal écouté, qui peut effectivement constituer un frein supplémentaire à ce que la voix des citoyens à travers cette conférence s'exprime véritablement.
Marie Caillot, présidente des Jeunes Européens, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. C'est un peu normal puisque vous êtes jeune et que l'avenir de l'Europe, c'est vous. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes vont s'emparer de cette conférence, de cette possibilité de s'exprimer sur l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire un peu sur votre avenir?
Je pense que les jeunes vont s'en saisir. De toute façon, il faut que les jeunes s'en saisissent absolument. La question, c'est de savoir quels jeunes. Parce que la jeunesse en soi, ça ne veut rien dire. La jeunesse, c'est une diversité de profils. Et donc, l'enjeu, ça va être aussi d'encourager les jeunes avec moins d'opportunités, les jeunes qu'on entend moins souvent, à participer à cette plateforme. Et donc, pour ça, il va y avoir aussi tout un enjeu de pédagogie envers ces publics-là qui va être très important à faire pour qu'on se retrouve avec des idées de jeunes qui viennent de milieux différents, qui ont une vision différente et qui, je pense, mèneront à des enjeux communs
celle d'une jeunesse européenne.
Eh bien, merci. Merci à tous les cinq d'avoir lancé sur RFI cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Sacha Michel du Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, RFI.fr, rubrique podcast. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescal, où que vous soyez à Paris, Berlin, Prague, Rome, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir. Appelez-nous.